Bonjour, bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est l'édition du vendredi 23 mars. Alors, avec moi au studio, j'ai Francine Forget. Bonjour, Francine.
Bonjour, Hélène.
Ça va?
Oui, ça va bien. Vous aussi?
Ah oui, le
oui,
printemps.
Oui, c'est le printemps. C'est beau. C'est beau.
C'est ça, ça nous encourage. Bonjour, Catherine Brunet.
Bonjour, Hélène.
Ça va, toi aussi?
Oui, on est le printemps depuis mardi déjà.
T'as raison, il était midi 10 qu'on m'a dit, midi 15 qu'elle y va. Il a cogné à la porte.
Oui, midi 15.
Bonjour, Mathieu, qui est à la régie.
Bon matin.
Alors, ce jour, nous allons vous sujet. Francine, vous allez nous parler de...
Pas de Facebook de façon directe, parce que je trouve que cette semaine, on en a parlé beaucoup. Je parlerai cependant de la reconnaissance faciale et un peu de Facebook et aussi des hackers ou en tout cas les pirates informatiques qui sont peut-être moins efficaces qu'on pense.
Ah, t'as souhaité, hein? T'as souhaité oui et non, parce que oui, ils viennent chercher des choses qu'on veut pas, puis non, d'autres peuvent nous aider à les retrouver.
Exactement.
Oui, Facebook dans la tourmente, on peut dire ça, hein? Comme...
Oui.
Et Catherine?
Je vais lire un article de Monique Giroux, J'en perds mon latin, qui est sur le masculin-féminin, et je vais vous lire aussi un article sur les distilleries québécoises.
C'est tout à fait d'à propos, surtout avec ce qui se passe au fédéral, hein, le masculin, le
tout
féminin, le genre. Merci Catherine. Moi, de mon côté, je vais vous faire la suite de la longue enquête de Noémie Mercier, une suite là, que je vais vous parler, c'est « Mourir seule ». Et par la suite, je vais vous amener à un hommage à la sensualité chez les aînés. On s'entend un peu plus tard. Alors voilà, on débute tout de suite. Francine nous amène dans la tourmente.
Pas du tout. Je parle de reconnaissance faciale, celle qui est en quête d'un visage humain décrypté, comme le dit Sarah Champagne dans Le Devoir du 17 mars 2018. La détection des visages et la reconnaissance faciale sont des technologies déjà largement utilisées et elles se raffinent chaque jour grâce à l'intelligence artificielle. Plus encore, c'est maintenant l'analyse des émotions et leur reproduction sur des avatars virtuels ou robotisés qui sont en vogue. Accepteriez-vous qu'un panneau publicitaire puisse lire votre réaction à sa campagne? Ou que votre médecin tente de lire des signes prédictifs de la dépression sur votre visage? Des centaines de chercheurs se penchent en ce moment sur l'informatique affective pour adapter le comportement des logiciels aux plus fines expressions. Mohamed Daman, du Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM, a commencé à s'y intéresser afin d'améliorer l'interaction entre le personnel soignant et les patients en scrutant leurs réactions respectives. En reconnaissance faciale, c'est-à-dire l'identification d'une personne, ce sont le plus souvent des données sur les traits du visage qui sont recherchées. Les modèles évaluent et enregistrent uniquement la géométrie, la position des yeux par rapport au nez, ou encore la forme de la bouche. L'analyse des émotions s'intéresse plutôt au mouvement entre ces mêmes éléments. Nombre de ces logiciels utilisent en fait le Facial Action Coding System, le FACS pour les initiés, une forme de nomenclature des mouvements faciaux, confirme M. Daman. Ce modèle, qui a été conceptualisé dès la fin des années 1970 par le psychologue américain Paul Ekman, définit la surprise, la joie, le dégoût, la colère, la tristesse, la peur et le mépris comme des émotions universelles. Cet outil décompose le visage en codes ou unités pour catégoriser et décrire les contradictions et autres actions du visage nécessaires pour produire une émotion. Par exemple, lever la partie inférieure des sourcils est associé à l'unité AU1. Presser les lèvres à l'unité AU24. Ainsi codés, les mouvements s'insèrent facilement dans les algorithmes. On en était à l'analyse en laboratoire, mais on cherche maintenant à faire l'analyse des visages pris n'importe où. Le défi, c'est quand les visages sont tournés ou lorsque les yeux ne sont pas alignés, décrit M. Daman. À défaut de pouvoir lire finement et reproduire les émotions, la détection et la reconnaissance faciale permettent déjà de déverrouiller les appareils Apple, d'ouvrir des portes dans une zone sécurisée et bientôt de passer les postes de sécurité de l'aéroport de Dubaï sans même s'arrêter. Lors du renouvellement de votre passeport au Canada, votre photo est déjà comparée à une large base de données pour vérifier si vous êtes bien la personne que vous prétendez être et non pas un criminel recherché. À l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, les nouvelles bornes d'inspection primaire, installées l'automne dernier par l'Agence des services frontaliers du Canada, vous croquent aussi le portrait pour le comparer à la photo de votre passeport. Facebook a annoncé en décembre dernier, alors je vous rappelle que l'article a été écrit avant la tourmente Facebook, qu'il aviserait dorénavant ses utilisateurs si une photo d'eux est publiée sur le réseau social, même si l'auteur de la publication ne l'a pas étiquetée. C'est un indice que le géant a franchi une étape de plus dans la reconnaissance faciale, puisque ses algorithmes réussissent à jumeler les photos avec plus de fiabilité, sans même l'intervention de vos amis. Le géant du web en fait son activité depuis des années déjà, signale la professeure à l'UQAM Marie-Jean Meur. La base de données de Facebook est puissante, puisqu'en plus des images, elle contient des montagnes d'informations qui permettent de faire des inférences à un niveau que la plupart n'imaginent même pas, ajoute-t-elle. Parmi les meilleurs usages possibles, elle donne un exemple, celui d'un urgentologue qui souhaiterait avoir accès en quelques secondes au dossier médical d'un patient avec un logiciel qui l'aurait identifié. En santé, les traits du visage pourraient aider au diagnostic de maladies rares, notamment le syndrome de Mabry, qui est une forme de retard mental, a trouvé une équipe de l'hôpital universitaire de Bonn. La reconnaissance faciale n'est pas encore miraculeuse, admet tout de même la professeure. Cette spécialiste de l'intelligence artificielle explique néanmoins que la combinaison de la puissance de calcul accrue des ordinateurs, du hardware, combinée aux masses de données, dont la compilation est facilitée notamment par le format fixe imposé sur Facebook, permettent à la reconnaissance faciale de progresser rapidement. On se dit souvent « je n'ai rien à cacher ». Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a tout à montrer, conclut-elle sur une note prudente. Le consentement, quel consentement? La notion de consentement éclairé n'est plus suffisante pour garantir l'acceptabilité d'utilisation des nouvelles technologies, affirme le professeur Jocelyn McClure, président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. La reconnaissance faciale contourne la notion même de consentement, notamment dans le cas de vidéosurveillance dans les lieux publics. Faut pas se leurrer, très peu de gens vont lire les formulaires de consentement d'utilisation. Et même les experts ne savent pas à quoi ils consentent totalement, avance la professeure Marie-Jean Meur. Le problème du consentement est aussi qu'il va à l'encontre de la fluidité des opérations, que ce soit une transaction financière ou l'installation des applications. Et puisqu'on s'y heurte alors qu'on touche presque au but, les utilisateurs ont tendance à consentir rapidement, sans se questionner. À la vigilance individuelle doit s'ajouter une action plus ferme des gouvernements, plaide-t-elle, pour appliquer les lois dans toutes leurs dimensions. Sarah Champagne, dans Le Devoir du 17 mars 2018, sur la reconnaissance faciale.
Fort intéressant, Francine.
Bientôt, avec la reconnaissance faciale, on va prédire l'avenir de quelqu'un aussi.
Ah, peut-être. Dompte les lignes de la main. Ça va remettre les rides à l'honneur.
Voilà en studio, Hélène Bédard au micro. Alors, comme je vous l'avais précédemment annoncé, la semaine dernière, j'ai commencé à vous lire une enquête de Noémie Mercier de l'actualité Elle fait toujours des grandes enquêtes, elle, et ceci comportait plusieurs volets. La semaine dernière, je vous ai parlé de Richard le solitaire, toujours dans le cadre de mourir seul. Et on s'étonne au Québec d'avoir le nombre de personnes, de corps abandonnés, retrouvés décédés, retrouvés morts, a doublé depuis 10 ans. Alors, c'est cette enquête qui nous amène, qui m'amène, moi, à vous lire un autre volet. Donc, la semaine dernière, on a parlé de Richard le solitaire, comme je vous disais. Maintenant, je vais vous parler de Norbert l'invisible. Toutes les cultures depuis l'Antiquité... je m'excuse. Toutes les cultures depuis l'Antiquité réservent à leurs défunts des au revoir publics hautement ritualisés. De tout temps, les rites funéraires ont eu une double finalité: accompagner les survivants dans leur traversée du deuil et assurer le devenir corporel et spirituel du défunt, explique l'ethnologue Martine Roberge, professeure au département des sciences historiques de l'Université Laval. Assigner une dernière demeure à quelqu'un, c'est l'inscrire dans sa communauté au-delà de la mort. De nos jours, les sépultures collectives ou anonymes sont plutôt associées aux situations de crise comme les guerres, les épidémies, catastrophes naturelles, qui tuent trop de gens trop vite pour qu'on s'arrête à chacun ou qui rendent leur identification impossible. C'est pas dans l'ordre des choses. Norbert est arrivé au cimetière par le garage, dans la boîte de carton qui lui sert de cercueil, 9 jours après sa mort d'une cirrhose d'origine alcoolique à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. En ce matin d'hiver, dans le crématorium du repos Saint-François d'Assise, il gît sur une table élévatrice, prêt à s'engouffrer dans l'un des 3 fours que dissimulent les portes métalliques. À la pression d'un bouton, celle du milieu se lève et le préposé pousse la boîte dans la cavité oblongue où jailliront bientôt les flammes d'un orange éblouissant. Il avait 64 ans, il était sans abri. « Pour nous, c'est un défunt comme les autres », précise Robert McDuff, le responsable du service à la clientèle qui m'accompagne dans les coulisses du cimetière. La procédure, le respect sont les mêmes pour tout le monde, réclamés ou non réclamés. Ce qui change, c'est où il va aboutir. Dans ces espaces d'allure industrielle, loin des gerbes de fleurs, des tentures de velours et de l'éclairage tamisé qui enveloppe la mort d'une atmosphère solennelle, la disposition des corps est réduite à sa plus simple expression. Une nécessité hygiénique et administrative sans artifice. Au sous-sol, dans une des salles réfrigérées où sont stockés les cadavres en attente d'être incinérés, on garde un grand coffre rudimentaire en fibre de bois agglomérée. C'est là-dedans qu'on empile les urnes funéraires des défunts non réclamés, au fur et à mesure que leurs cendres sortent du crématorium. De banals contenants de carton au fini bleu imitant le marbre, étiquetés et cordés comme des paquets, qu'on s'apprêterait à expédier quelque part. Il en rentrera une centaine à l'intérieur de ce grand coffre. Quand son corps aura été réduit en poussière, Norbert viendra les y rejoindre. Et dans 6 mois, lorsque la caisse sera pleine, la centaine d'urnes seront transférées dans 4 boîtes de bois plus petites, mais tout aussi rustiques, puis ensevelies tout en même temps dans la section 6D du cimetière réservé aux morts orphelins. Cette étendue dénudée aussi vaste qu'un pâté de maison forme un vide incongru au milieu de l'agglomération de pierres tombales. Pas une croix, pas un bouquet, ni un caillou ne laisse entrevoir que sous cette surface muette dorment 1264 personnes. Depuis une dizaine d'années, la majorité des corps non réclamés de la grande région de Montréal finissent dans ce terrain du repos Saint-François d'Assise qui est à l'est de la ville de Montréal. Son directeur, Richard Prénovost, s'attend à recevoir encore 150 cette année. Les corps traités par le bureau du coroner, quant à eux, aboutissent au cimetière de Laval. Ils sont placés dans de simples cercueils et enterrés 5 ou 6 à la fois dans une bande de terre dégarnie qu'on croirait vacante. Le coroner proscrit la crémation dans ce cas-là. Alors, chaque dépouille est néanmoins rigoureusement identifiée et son emplacement exact consigné dans un registre informatisé. La mémoire de ces personnes, on a le devoir de la conserver pour la postérité, explique Richard Prénovost. Le terrain est cadastré et chaque urne renferme un carton en acier inoxydable avec un numéro de référence. Alors, on sait exactement où chaque défunt se retrouve. Si un jour un membre de la famille reconnaît un parent, on est en mesure d'aller l'exhumer. Jusqu'ici, ça ne s'est jamais produit. Originaire du Nouveau-Brunswick, ce monsieur Norbert semble avoir vécu dans la rue de Montréal sans laisser d'empreintes
évanescent. Les dossiers de la Maison du Père, l'un des grands refuges pour sans-abri dans la métropole, indiquent qu'il s'y arrêtait une fois de temps en temps depuis une vingtaine d'années pour encaisser son chèque d'aide sociale. Il n'a passé la nuit au dortoir qu'en de rares occasions. Il y avait dormi la dernière fois le 14 janvier, 6 semaines avant de mourir, sans avoir pu payer le tarif symbolique de 1 $ et en refusant de se faire photographier. « C'est un de nos invisibles, dit le directeur, François Boissy, de la Maison du Père. On les appelle nos fantômes, ceux qui longent les murs, que tu ne vois pas nécessairement parce qu'ils ne dérangent pas, ils ne veulent pas te suivre. Ils viennent s'apaiser, chercher un peu de chaleur et de réconfort, puis ils repartent dans leurs petites affaires. » Norbert apparaît aussi aussi sporadiquement dans les archives de la mission du Bon Accueil et du Old Brewery, deux autres refuges pour itinérants. Une nuit ici et là, certaines années, puis plus rien pendant de longues périodes. Là non plus, il n'a produit aucune impression marquante et personne, dans aucun de ces organismes, ne se souvient de lui. La semaine prochaine, je vous amène avec un autre cas. Ça semble triste, mais je crois qu'il faut qu'on en parle. Merci beaucoup.
J'ai buté toutes ces saloperies d'un petit tour d'hélico et y a plus que moi dans la prairie. Regarde la banquise vide, y a plus un ours là-dedans. On fera pousser des arachides dès qu'il y aura plus tous blancs et les Indiens, les Esquimaux qui se plaignent tout le temps du réchauffement, qui s'achètent des frigos s'ils veulent tellement claquer des dents. Je peux tout seul. Je veux tout seul. Et si un jour la mort me cueille, je veux pas de pleurs, je veux pas de deuil. Je peux tout seul. Je suis tout seul. Tête vide, défoncée à l'info, à chaque vague d'attentats suicides, on peut surfer plus haut, montrer des morts, monter des murs, faut entretenir le stress et casser les rêves du futur, la peur c'est bon pour le business, je peux tout seul, je veux tout seul, et si un jour
C'était Daran qui nous chantait la chanson « Tout seul ».
Nous revoici en studio. Merci pour cette belle mélodie qui a évaporé un peu mon dernier texte. Alors, je vais laisser la parole à Catherine qui va nous parler de Monique Giroux, je crois, c'est ça?
Oui, merci. Je nous amène avec Monique Giroux sur sa chronique « Sur mesure » qu'elle écrit toujours dans Le Voir. On est dans Le Voir du mois de mars. C'est probablement la dernière semaine que je vais lire cette revue parce que, bien sûr, on sera en avril la semaine prochaine. C'est un article qui s'appelle « J'en perds mon latin ». C'est à en perdre son latin. La maire de Paris, Anne Hidalgo, reçoit la mairesse de Montréal, qui n'est pas la femme du maire, mais bien celle qui a remporté la majorité des suffrages aux dernières élections et dont la cote d'amour a chuté plus vite que ne fond la neige. Amour n'est-il pas masculin au singulier et féminin au pluriel? On passe pour qui? Ok, si ce n'était que ça, je suis chroniqueuse, animatrice et non pas chroniqueur, animateur, je suis conceptrice et pas concepteur, ou encore moins concepteuse, auteur et peut-être autrice, pas auteuse. Pour des raisons de talent, je suis pas actrice, pourquoi pas acteur? Je suis propriétaire, journaliste, j'ai été recherchiste, documentariste, ce qui, ma foi, est beaucoup plus simple. J'ai été camelot de la presse, une camelot. Non seulement ce petit métier s'est perdu, mais le journal n'existe plus. M'aurait-on traité de camelotte? J'ai été emballeuse. Je m'emballais déjà à l'époque pour la musique, les voyages et la langue. Mais j'emballais surtout du fromage Oka sur une chaîne dans l'usine Agropure. Sans meule à l'heure. Je suis fille unique, orpheline de père. Je suis radio-canadienne. Je regarde TVA, HGTV, TV5, Planète, Télé-Québec, mais jamais V. Ah, ça, c'est trop pour moi. Rien de tout ça n'est bien grave. J'utilise parfois les toilettes des hommes quand la file est trop longue chez les dames et qu'on sonne la file, la fin de l'entracte, pardon. Et non, ça n'a rien à voir avec mon genre, mon absence de genre ou mon orientation sexuelle. C'est juste que j'ai envie. Souvent, je lance le bal. Si elle y va, on y va aussi. Vous devriez voir la complicité féminine en pareilles circonstances. D'ailleurs, quelle idée ces urinoirs à tout va? Ça ne vous gêne pas de vous la sortir au grand vent debout face au mur à côté d'inconnus qui font de même? C'est d'un moyenâgeux terrible, franchement. Et puis, les boulamites. Pendant qu'on y est, je m'éloigne du sujet, mais pouvez-vous bien me dire pourquoi les cloisons de toilettes publiques ne sont pas du plafond au plancher pour un peu plus d'intimité? Par souci d'économie de matériaux, peut-être? Si on parvenait à résoudre cette anomalie architecturale, on aurait plus de facilité à atteindre l'équité, du moins en matière de cabine d'aisance. Plus de fils inutiles, plus d'entraques interminables, de madame qui se tortille tout au long de la deuxième partie parce que son tour n'est jamais venu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis pudique, du latin pudicus. Vous vous souvenez de l'énumération des pronoms personnels? On les répétait par cœur, comme une prière. Ou comme ces conjonctions en forme de question, mais où est donc or ni car? Je tue il, nous vous il. Je tue il, nous vous il. Je tue il, nous vous il. Point d'elle, ni d'elle. Comme dans il et des il, le masculin l'emportait sur le féminin. On nous martelait que la mère de Jésus était une pauvre vierge sans défense et sa maîtresse Marie-Madeleine, une pute qu'on l'a découvert beaucoup plus tard, et les historiens ne s'entendent toujours pas là-dessus, s'est fait passer pour un gars pour assister au dernier repas. La Vierge Marie n'était pas forcément vierge. Une ingénieuse n'est pas forcément une femme ingénieure. Ce n'est pas incompatible, cela dit. On peut à la fois être une ingénue, ingénieure et ingénieuse, et même vierge. Une entrepreneuse est-elle une entrepreneur, entreprenante ou pas? Pourquoi dit-on une auteure, compositrice, interprète? Parce que c'est plus joli à l'oreille qu'autrice, compositrice? Mais ce ne l'est pas moins qu'auteuse, compositeuse? Oh là là, je cherche une explication. La Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française propose cette solution à la question de comment savoir ce qui se trisse et ce qui se teure. Les noms passent de teure à trisse, lorsqu'ils viennent de noms latins se terminant par « tor » et « trix ». Ces noms s'inscrivent souvent dans une famille qui comporte un nom se terminant par « tion »,« tur » ou « tora ». comme dans administration, administrateur, administratrice, acupuncture, acupuncteur, acupunctrice, rectorat, recteur, rectrice. Mais encore, toujours extrait de la banque de dépannage de l'OQLF, on constate que les noms qui passent de « heure » à « euse » remontent dans la grande majorité des cas à un verbe. On peut former ces noms à partir du participe présent du verbe auquel on soustrait la terminaison « a » pour la remplacer par le suffixe « heure » ou « euse ». Comme dans le verbe « chauffer » qui a pour participe présent « chauffant », donc « chauffeur » devient « chauffeuse ». Je continue de chercher. Comme les noms en « heure » qui forment leur féminin en « euse », les noms en « teur » ont un féminin en « teuse », car le verbe dont ils dérivent a un « t » à sa finale. Ces noms n'ont pas dans leur famille de noms « antion »,« tur » ou « tora », comme « chanter »,« chanteur », »,« chanteuse ». Voulez-vous que je répète? J'ai relu 20 fois avant de le copier-coller, exaspéré. Il n'y a pas de « chantion », de « chanture » ou de « chantora ». Ça n'existe pas. Mais ça ne règle pas la question de l'auteur autrice. Quelle heure est-elle? Oui, une heure plus tard, ça y est, je l'ai, tout s'explique. Certains féminins entrices sont en concurrence avec de nouvelles formules en teur. La forme autrice tout à fait régulière, car on avait en latin autrice, ne s'est pas imposée dans l'usage du Québec, où auteur est maintenant plus fréquent, à côté de sculptrice, forme régulière ou emploie également sculpteur. C'est bien ce que je disais. Que faire quand on a perdu son latin? Alors voilà, c'est un article de Monique Giroux qui se penche sur la question du féminin et masculin dans les noms. Et cet article s'appelle « J'en perds mon latin ».
Excellent article. Monique Giroux, faudrait l'inventer si on ne l'avait pas.
Tout à fait.
Délicieux, délicieux article. Alors voilà, pour le moment, nous allons aller vers la pause. Alors restez avec nous pour la suite de l'émission « Les voies de service ». Nous vous revenons immédiatement après la pause.
Qui est perdu, mais c'est pas naturel. Le monde est virtuel. J'ai mon profil Facebook plugé sur mon Twitter. Celui de Twitter plugé dans mon toaster. Fait que là, mes muffins anglais reçoivent des courriels. Le monde est irréel. Thank you. ça change, plus c'est pareil. Y a-tu quelqu'un dans l'appareil? Y a-tu quelqu'un pour me parler? Envoyez-moi un message privé. Y a-tu de la vie dans mes amis? De la vérité sous mon clavier? Y a-tu du sang derrière l'écran? C'est juste du vent, c'est juste du vent.
Serge Fiori, la chanson « Le monde est virtuel ».
Eh bien, nous revoilà au Voix de service magazine avec l'équipe au complet, Catherine, Francine, Hélène. Alors, Francine va nous parler des pirates.
On l'écoute. Oui, ben les pirates 2.0, qu'on pourrait dire, pour prendre une expression largement utilisée. Alors, quand ces pauvres pirates informatiques en arrachent, le mot « pauvre » est de mon cru. Marie-Claude Malbeuf dans la presse plus du 19 mars 2018. Parce qu'ils se fraudent mutuellement et se méfient férocement les uns des autres, les criminels du web font beaucoup moins d'argent qu'on ne le croit. C'est la conclusion à laquelle vient d'arriver un chercheur de l'Université de Montréal après avoir décortiqué près de 5000 échanges issus d'un forum censé réunir l'élite des pirates informatiques. C'est la première fois que les conversations d'un groupe aussi fermé et d'aussi haut niveau sont analysées en profondeur, souligne Benoît Dupont, qui est professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, dans un article publié dans la revue American Behavioral Scientist. Le club select qu'il a étudié, Dark Audi, a été créé par des pirates aguerris qui voulaient mettre leur expertise en commun et vendre leurs services. Leurs outils cauchemardesques permettaient de voler des données, de prendre le contrôle d'ordinateurs à l'issue de leurs propriétaires, de faire planter des sites, etc. Lorsque le FBI américain a finalement réussi à démanteler le groupe de 300 personnes en 2015, il l'a décrit comme l'une des pires menaces contre les données informatiques aux États-Unis et dans le monde. Mais d'après le professeur Dupont, Dark Audi était dysfonctionnel, ses échanges chaotiques, et les profits possibles très aléatoires. Les montants des transactions ne représentaient souvent que quelques centaines ou quelques milliers de dollars, d'ajouter Benoît Dupont. Au lieu de s'enrichir, certains membres ont été victimes d'arnaques, les fraudeurs étant omniprésents au sein de ces groupes hors la loi, explique M. Dupont. Certains ne livraient pas le produit promis. D'autres décodaient et copiaient le programme malfaisant qu'il venait d'acheter pour le revendre à bas prix et lui faire perdre sa valeur. Les pirates les plus sophistiqués ont pu vendre leur logiciel largement à des prix assez élevés. Mais ça leur a rapporté des centaines de milliers de dollars, pas des millions, précise M. Dupont. Et ce n'était pas de l'argent facilement gagné. Comme tout petit entrepreneur, ils ont dû faire des heures interminables chaque semaine. Même un pilier du groupe a seulement reçu 3 000 $ en échange d'une banque de données contenant des informations au sujet de 200 000 cartes de crédit
pouvant être utilisés pour commettre une fraude d'au moins $1 million. Pour se joindre à Darkody, il fallait être invité par un membre en règle, puis présenter au groupe son CV criminel afin d'établir sa valeur. Ça a créé une concentration d'individus qui avaient des activités plus graves que la moyenne, dit le professeur Dupont. Avec le temps, les administrateurs ont voulu accroître leur réservoir de clients. L'appât du gain a eu préséance sur la sécurité et sur la qualité des intervenants. Une fois que vous aviez obtenu l'invitation, l'admission était rarement refusée. Ça a ouvert la porte à toutes sortes de gens indésirables pour eux. Des chercheurs en sécurité, des journalistes et des policiers, dit Benoît Dupont. En 2013, 2 ans avant l'intervention du FBI, un justicier du web français a divulgué 4 ans de conversations secrètes en rendant publiques les milliers de saisies d'écran ensuite analysées par le professeur Dupont. La paranoïa s'est installée et les accusations l'ont finalement emporté sur les échanges commerciaux. La plupart des membres étaient de jeunes hommes assez impulsifs. Ça a contribué à leurs difficultés, puisqu'ils n'avaient pas la discipline et le sens de la diplomatie requis pour mener des activités harmonieuses avec leurs complices potentiels. Au bout du compte, les membres ne se faisaient pas davantage confiance et ne se montraient pas plus fiables que dans les autres forums, résume le chercheur. D'après lui, la plupart des membres de Darkody se sont illusionnés. Seuls ceux qui savent se protéger des autres pirates peuvent survivre dans ce milieu et la plupart n'ont pas les compétences requises pour y arriver, dit-il, car l'expertise technique ne suffit pas. Certains d'entre eux sont très très bons, mais dans l'échelle de sévérité délinquante, c'est loin d'être des kingpins, dit le professeur Dupont. Ça s'apparente beaucoup plus à une criminalité normale, avec toutes ses limites, qu'à une super criminalité capable de mettre fin à toute notre civilisation numérique. En Ontario, le jeune décrocheur Karim Baratov se vantait d'avoir gagné des millions en infiltrant des boîtes de courriel à la demande de clients et affichait fièrement sa collection de voitures de luxe. Mais il a fini par être embauché par des espions russes qui s'en sont servis comme écran afin de pirater des millions de comptes Yahoo. En 2017, l'Ontarien a été arrêté par le FBI qui a saisi ses biens. Il devrait connaître sa sentence très bientôt. Avec ce genre de compétences-là, c'est probablement tout aussi payant d'aller travailler dans une entreprise légitime, observe M. Dupont. D'anciens pirates s'en rendent compte et changent de cap, dit-il. L'un des fondateurs de Darkody s'est réhabilité et installe tout à fait légitimement des réseaux informatiques. Tous les pirates informatiques ne font peut-être pas fortune, mais les dégâts financiers qu'ils causent ne sont sûrement pas banals, précise le professeur de criminologie. Le volume et l'impact des crimes informatiques sont clairement en augmentation. En Angleterre, ça représente la moitié des crimes toutes catégories confondues. C'est quand même considérable. Malgré tout, aucune statistique fiable ne permet encore de chiffrer les pertes provoquées par les pirates, nuance-t-il. Et les négociations survenues sur Darkody lui font croire que les pertes alléguées lors des procès récents étaient sans doute gonflées. Les entreprises privées de sécurité informatique ont intérêt à exagérer la menace pour créer un sentiment d'inquiétude qui va faciliter la vente de leurs produits, dit le professeur Dupont. Et les autorités policières arrêtent tellement peu de ces gens-là qu'elles ont intérêt à les faire paraître plus redoutables qu'ils ne le sont en réalité pour compenser. Marie-Claude Malbeuf dans La Presse Plus, 19 mars 2018.
Nous revoilà en studio. Je vais poursuivre sur la lancée des pirates. J'ai trouvé dans la revue Virage, le volet Internet, un texte écrit par Stéphane Desjardins. Et c'est « Au secours, on m'a volé mon identité ». Votre identité, si vous ne le saviez pas, ben, ça vaut de l'or. Se la faire voler, c'est l'enfer. Et le phénomène n'est pas marginal, puisque le Centre antifraude du Canada a reçu près de, attention, 90 000 plaintes pour fraude en 2017. Oubliez l'ado boutonneux devant son PC encrassé, entouré de boîtes de pizza vide. La majorité des fraudeurs travaillent pour de grandes organisations criminelles. Ouais, ils sont très rusés. Ils fouillent vos poubelles, c'est-à-dire la corbeille informatique, les boîtes aux lettres, vous appellent, envoient des lettres, des courriels, des textos. Ils se font passer pour votre banquier, votre patron, votre petit-fils, un percepteur fiscal. Bref, ils vous offrent un emploi, vous avertissent qu'on vous poursuit, qu'il y a une erreur dans vos dossiers, qu'on vous doit de l'argent. Ils vous demandent ensuite des renseignements personnels. Changez votre mot de passe. Leurs courriels et leurs arguments sont impeccables, habiles, et surtout efficace. Le Better Business Bureau de la Colombie-Britannique estime que les Canadiens ont été fraudés pour 91 millions de dollars, ce qui ne représenterait que 5 % des pertes véritables, car de nombreuses victimes ont honte de révéler qu'elles ont été fraudées. Des spécialistes estiment de 175 à 600 heures le temps qu'il faut pour restaurer son identité, et le quart des victimes n'y arriveront jamais complètement. Avant le retour à la normale, elles se font refuser des prêts, peinent à s'assurer, louer un logement, acheter une voiture, prendre l'avion ou se voient imposer un taux d'intérêt plus élevé. Plusieurs réussiront, par exemple, à rétablir leur réputation chez des agences de crédit comme Equifax et TransUnion, mais elles conservent une mauvaise cote de crédit à cause des refus causés par la fraude d'identité et parce qu'elles constituent désormais un risque. Quelles sont donc les personnes les plus vulnérables? Habituellement, les 55 ans et plus. Car le vol d'identité est surtout numérique et Internet, plus souvent qu'autrement, c'est nouveau dans leur culture. Alors, les fraudeurs obtiennent votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel en piratant des bases de données, comme ma consoeur le mentionnait. Ça peut être Facebook aussi, hein, on a entendu parler cette semaine. Parfois, ce sont de grandes organisations comme Yahoo, Winners, Equifax. Même Equifax s'est fait pirater. Le plus souvent, ils ciblent des listes conservées sur l'ordinateur de votre employeur ou de votre club de bridge, qui n'ont peut-être jamais su qu'elles ont été volées, affirme M. François Daigle, qui est président d'une firme de sécurité informatique. D'autres utilisent des logiciels espions qui épluchent les réseaux sociaux, croisent le nom de vos enfants, chiens, date de naissance, compositeur, auteur ou film préféré pour découvrir votre mot de passe. D'ailleurs, Francine, vous avez parlé, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est ça, le boulier géant pour retrouver tous les mots de passe. Les mots de passe les plus utilisés, c'était vraiment, il faudrait que tu nous en reparles de ça. Ces logiciels ou même les voleurs par effraction exploitent les faiblesses des mots de passe sur vos téléphones, tablettes, ordinateurs ou routeurs. Seulement 4 % de ces mots de passe résistent aux attaques. Eh bien là, c'est quand même étonnant. Comment vous protéger? Les banques, les gouvernements ou le fisc ne communiquent jamais avec vous par téléphone ou par courriel. Ils disposent déjà des renseignements qu'un fraudeur vous demande. Si c'est le cas, okay, une lumière rouge devrait clignoter dans votre tête. Si un interlocuteur insiste pour transiger avec vous, raccrochez simplement et rappelez le service à la clientèle de cette dite compagnie. Les choses vont probablement être beaucoup plus claires à ce moment-là. Qu'est-ce que les fraudeurs cherchent? En partie, le nom, prénom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, numéro d'assurance maladie, l'adresse, nom de jeune fille de votre mère, mais ça, on nous le demande abondamment, oui. NIP, mot de passe en service en ligne. Numéro de compte bancaire, numéro de passeport, carte de crédit, évidemment. Un signe que vous êtes sur le point d'être fraudé. Vous recevez un état de compte à votre nom, mais ce n'est pas vos transactions. Une société de crédit ou une institution financière vous annonce une demande de crédit approuvée ou jetée, mais vous n'en avez pas fait. On vous refuse une demande de crédit pour acheter ou louer un bien, un véhicule, un logement. Mais toujours là, vous n'avez pas fait cette démarche. Un créancier ou une agence de crédit vous contacte pour une dette que vous n'avez pas contactée. Comment donc vous protéger? Ne répondez pas aux courriels ou aux appels non sollicités dans lesquels on vous demande de communiquer des renseignements personnels. Recevez et payez vos états de compte et factures par Internet et surtout, n'inscrivez pas vos NIP. Numérisez systématiquement factures, états de compte, reçus, documents importants. Vérifiez-les chaque mois. On vous propose même de déchiqueter tous ces factures que vous payerez, que vous recevez par la poste. Donc, déchiquetez. J'ai de la misère avec ce mot-là. Déchiquetez-les avant de les jeter au recyclage. Assurez-vous que les logiciels pare-feu et protection sont à jour sur vos ordinateurs. N'écrivez jamais votre NIP sur l'enveloppe de protection d'une carte de crédit. Ne la divulguez à personne. Votre date de naissance, on vous le dira encore une fois, c'est pas un bon NIP. Laissez dans un lieu sûr vos cartes d'identité non essentielles. Vérifiez votre dossier de carte de crédit et de crédit chaque année chez Equifax ou TransUnion. Ça ne vous coûte rien, la vérification. Masquez vos transactions avec une main quand vous pitonnez sur un guichet automatique ou un terminal de magasin. Ne laissez jamais une carte de crédit ou de débit quitter votre champ visuel, surtout en voyage. Ça, j'en sais quelque chose. Personnellement, je me l'ai fait faire deux fois en voyage. Conservez tous vos mots de passe dans un fichier crypté ou une voûte numérique, si vous en avez une. Alors, c'était un texte mis en garde de Stéphane Desjardins dans la revue Virage de février 2018. Voici de retour et Catherine Brunet, je vous laisse la parole.
Oui, je vous lis un article concernant la distillerie au Québec. Ça s'appelle « Goutte à goutte » et c'est écrit par Marie Paris. La bouteille de gin forestier canopée de la distillerie Mariana en Mauricie coûte 35 $ en magasin. La Société des alcools du Québec a quant à elle acheté la bouteille 8 $ et 15 $. En enlevant le coût de production, environ 5 $, il nous reste juste quelques piastres, littéralement, indique Jean-Philippe Roussy, un des deux distillateurs à l'origine de Mariana. Si la multiplication des distilleries québécoises ces dernières années laisse croire à un secteur florissant, en coulisses, nombreuses sont les entreprises à l'avoir difficile. Du côté de la SAC, on nous explique que le prix d'achat est négocié avec les producteurs. En vertu des accords internationaux, la SAC doit appliquer un traitement égal à tous les produits d'une même catégorie, dont la même structure de prix. Le prix de vente est quant à lui déterminé en fonction du prix du fournisseur, selon la grille de calcul prévue. Des promotions peuvent s'appliquer en plus, résume Linda Bouchard, agente de la SAC, la société publie la structure de prix d'un spiritueux dans un rapport annuel. On est parmi les moins chers des produits québécois, assume Jean-Philippe avec son gin à 35 $. Il y a 2-3 ans, on croyait vraiment pas que les gens allaient acheter des gins à 50 $. Traditionnellement, les Québécois n'étaient pas des consommateurs de ces produits, dont notre approche était de les y amener avec un bon rapport qualité-prix et de là développer la culture du spiritueux. Une fois les bouteilles achetées par la SAC, il faut qu'elles soient commandées en succursale. Ça, c'est encore la job des producteurs. À eux de faire connaître leurs produits et de faire des dégustations. L'équipe de Mariana est allée jusqu'à sur la Côte-Nord, dans un grand tour du Québec, pour faire découvrir leur alcool. Un travail de communication qui aurait presque nécessité un employé à temps plein. Aujourd'hui, Mariana met plus l'accent sur la distribution locale. Avant, c'était surtout avec les gros groupes internationaux, comme Bacardi, que dealait la SAC. Ils ne comprenaient donc pas, par exemple, qu'une petite distillerie ait surtout besoin d'avoir ses produits bien distribués localement. Aujourd'hui, ils comprennent mieux. Ce que confirme Linda Bouchard de la SAC pour la distribution, tout dépend de la qualité et la quantité disponible, de la nature du produit, du moment d'introduction. Ces producteurs peuvent visiter nos succursales pour présenter et proposer leurs produits. Nous pouvons aussi distribuer le produit dans des secteurs spécifiques, principalement à cause de besoins régionaux et pour s'assurer d'une distribution adéquate en fonction de l'approvisionnement. Nous travaillons de très près avec l'industrie des spiritueux et des associations qui la composent, tout comme nous l'avons fait pour les vignerons. Alors qu'il ne reste que quelques dollars au producteur une fois la bouteille vendue à la SAC, la seule option reste de vendre en gros volume. La majeure partie des distilleries au Québec travaille donc avec une base d'alcool qu'ils achètent et aromatisent au lieu de produire leur propre base d'alcool à partir de grains, ce qui demande plus de temps. Pour ceux qui essaient de faire leur alcool de grains à la bouteille, présentement c'est très difficile, souligne Jean-Philippe. Les jeunes qui se lancent dans la distillerie, Radoun, Saint-Laurent, Odaiwer, distillerie du Fjord, etc., n'ont pas d'autre choix que de faire l'alcool industriel, parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour partir du grain. Pour certains, la distillerie est un projet de pré-retraite, et ils commencent avec des sous. Nous, on est partis de rien, fallait faire de l'argent rapidement. Depuis sa création, il y a 3 ans, Mariana produit des alcools de type industriel. Mais c'est voué à changer prochainement. On a fait des pressions. Il y a des producteurs qui sont sur le point de fermer car c'est trop difficile. Les marges sont faibles et il faut se battre pour vendre beaucoup de bouteilles. Mais on croit beaucoup que les lois vont changer. Il y a de plus en plus de distilleries qui apparaissent sur les scènes québécoises. Il va y en avoir une force au nombre. En effet, du côté de l'Assemblée nationale, le projet de loi concernant les producteurs d'alcool devrait être validé au printemps. Ce texte devrait notamment permettre aux titulaires de permis de distillateurs de vendre les alcools et les spiritueux qu'ils fabriquent sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit. Comme le stipule le texte, un représentant du gouvernement du Québec avait en effet annoncé ce changement à venir en mai dernier lors de l'Assemblée générale de l'Association des micro-distilleries du Québec qui compte une douzaine d'entreprises. Pour le ministre des Finances, ce projet de loi 150 est une manière pour le gouvernement de soutenir l'industrie. Autoriser la vente sur les lieux de fabrication pour les distillateurs industriels répond à une demande de ce milieu. Il a été déterminé de soutenir le développement de cette industrie, cela au bénéfice de toutes les régions du Québec. Cette mesure dévoilée dans le budget 2017-2018 était également accompagnée d'autres mesures visant à soutenir cette industrie, notamment l'autorisation de faire déguster des produits ainsi qu'un soutien financier de 5,2 millions sur 5 ans. Pardon. On se prépare au changement de loi, confie Jean-Philippe. On se prépare au changement de loi, confie Jean-Philippe. C'est pour ça qu'on investit. On va acheter un gros alambic pour faire du whisky et du rhum sur place, des produits artisanaux. De 5 actuellement, Mariana va passer à 8 alcools différents d'ici le mois de mai. On va aussi créer un centre de visiteurs et de dégustation ici, avec une boutique. On va pouvoir accueillir les gens et vendre sur place. Mais c'est sûr que si on pouvait tout vendre sur place, on travaillerait beaucoup moins par rapport à ce qu'ils nous en apportent. En outre, le producteur ne peut pas vendre directement son alcool à un restaurant ou à un bar, comme c'est possible pour les vignerons. Pour le ministère des Finances, les différences dans les régimes de commercialisation du vin et de spiritueux s'expliquent par plusieurs raisons. Dans le cas des spiritueux, nous avons affaire à des produits de distillation, un procédé de fabrication très différent et donc avec des caractéristiques différentes. Entre autres, les taux d'alcool des spiritueux nettement plus élevés que ceux du vin et de la bière ajoutent une préoccupation additionnelle du point de vue de la santé et de la sécurité publique. Bref, ce qui sort de nos alambics continue de nous étonner. Il reste encore plusieurs questions à distiller au cours des prochains mois.
Alors, pour le virus de ma collègue Catherine, Louis Barrero, qui est un chercheur dont je vous reparlerai probablement dans une prochaine émission, dans Québec Science, qui parle justement du système immunitaire. Alors, peut-être pour dire que quand on contacte une grippe saisonnière, ensuite, on est toujours immunisé contre la souche qui l'a infectée.
Ah oui!
Alors donc, ma chère Catherine, au nombre de virus que vous avez eu cette année, ben, je pense que vous allez être bon pour une couple d'années. Vous allez passer votre tour.
On va te le souhaiter grandement.
Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes chères collaboratrices. Merci, Catherine.
Merci, Hélène.
Soigne-toi bien. Merci, Martine.
Bonjour. Alors, on se revoit dans 2 semaines.
Dans 2 semaines. Merci, Mathieu. Mathieu. C'est ça. Mathieu. Non, c'est parce que... Excuse-moi, je suis dérangée. Merci beaucoup. T'es un collaborateur extraordinaire. Alors, on vous revoit dans 2 semaines. Soyez avec nous. Faites attention à vous. Plaisir.